message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Parallèlement à ce déferlement des ténèbres sur la terre et de l'éloignement de certains chrétiens de Dieu, du monde aussi qui ne croit pas en Dieu, parallèlement, Dieu fait une œuvre. Parce que dans le cœur de Dieu, il y a un désir qui n'est pas notre désir, mais qui est le désir de Dieu, à cause de l'amour qu'il a pour son Église. Dieu ne laissera pas son Église s'éteindre. Vous pourrez dire amen avec ça ? Non, non, parce que c'est tellement important de bien comprendre ce que Dieu est en train de faire. Il a dit à l'Église, je t'aime d'un amour éternel. Et même si nous voyons l'Église qui n'est pas comme nous désirons la voir, d'abord quand nous posons un regard sur l'Église, sachons déjà poser un regard sans critique, même si nous voyons que ça ne va pas. Je me garderai bien de critiquer ouvertement une Église, même si je sais qu'il y a des imperfections dans les Églises. Mais ce que je sais en tout cas, c'est l'amour de Dieu pour son Église. Et à cause de cet amour, dans la fin des temps, Dieu va faire en sorte que l'Église retrouve le chemin de son cœur. C'est ce que a vécu le roi Ézéchias. Je ne reviens pas sur les trois autres dimanches, ça serait trop long de revenir sur l'ensemble de la prédication. Simplement, quelques points de rappel. Ézéchias, 20 ans, 25 ans. Roi d'Israël, première année, premier mois de la première année de son règne. Le voilà, en tant que jeune roi à 25 ans, première chose qu'il fait, il pose son regard sur les portes de la maison de l'Éternel qui sont en délabrement et il décide immédiatement de réparer ces portes et de remettre la maison de l'Éternel en état. Ce n'était pas une mince affaire, mais il fallait que la maison de l'Éternel soit rétablie selon les commandements que Dieu avait donné à Moïse concernant le tabernacle. Il fallait que tout soit à sa place. D'abord, pour que tout soit à sa place, il fallait que le temple soit purifié de toutes les souillures qui étaient à l'intérieur. N'oublions pas qu'Akaz, le père d'Ézéchias, était un roi abominable. Et nous disons que Ézéchias était un réchappé de la folie meurtrière de son père qui avait cette fâcheuse habitude de sacrifier ses fils et ses filles au dieu Moloch, à savoir qu'il les jetait vivants dans la fournaise ardente du dieu Moloch pour offrir des sacrifices à cette idole-là. Il avait même pillé la maison de l'Éternel, il avait quitté tous les instruments de valeur, et il les avait même donnés au roi d'Assyrie, en gage de certaines complaisances d'appui politique, sociale, militaire, peu importe. Mais il nous est dit qu'Akaz était l'un des plus mauvais rois d'Israël. Frères et sœurs, regardez, il y a une situation tellement mauvaise, une situation tellement de ténèbres du temps du roi Akaz, qu'il fallait que Dieu suscite à un moment donné la lumière. C'est ce que nous vivons. Nous sommes dans un temps de grandes ténèbres, dans un temps où, un temps, ce que l'Écriture appelle les temps d'angoisse de Jacob. C'est vraiment les peuples, les hommes, les femmes de cette terre sont dans l'angoisse. Nous, nous sommes dans la paix parce que Jésus nous a laissé la paix devant toute cette situation-là. Mais les gens du monde, ils tremblent, ils ont peur. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Tout s'écroule. Tout ce que l'homme a bâti, la statue de Daniel, elle est en train de s'écrouler. C'est fini. Et tu ne peux pas mettre ton espérance dans le système humain parce qu'il a donné son fruit. C'est-à-dire la complète décomposition des nations d'abord, parce que toutes les nations, n'est-ce pas, ont subi à cause de la folie de l'homme, des problèmes de toutes sortes, et nous en voyons, par exemple, dans le bassin méditerranéen, combien Dieu est en train de libérer libérer ses peuples. Et je rends gloire à Dieu pour la libération des peuples autour du bassin méditerranéen. Et je l'ai cité, le Maroc et l'Algérie et la Tunisie et l'Égypte et l'Éthiopie et la Libye. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train d'ouvrir les portes. Mais pourquoi ? Parce que lorsque l'évangile sera annoncé à toute nation, alors viendra à la fin. Alléluia. Et nous voyons toutes les portes de ces nations s'ouvrir. Alors, on peut me dire, mais mes frères, ils n'ont pas adopté le christianisme. Mais je n'ai pas dit ça, moi. J'ai dit que Dieu a ouvert la porte pour l'évangélisation et pour que les gens se tournent des ténèbres à la lumière. Dieu va le faire. C'était impossible, inimaginable, encore en 1990, dans ces années-là, que le mur de Berlin tombe. L'Empire communiste, la Russie, c'était... Qui aurait cru le pays qui se disait athée? Et quel pays? Un empire bien plus grand que l'Europe. Et pourtant, en une nuit, paf! Et aujourd'hui, la Russie et tous les pays satellites de la Russie qui ont pris leur indépendance sont littéralement évangélisés. La Chine, pareil, Dieu fait son œuvre. Les pays arabes, gloire à Dieu, Dieu fait son œuvre. Donc nous voyons que dans un temps de grande oppression, dans un temps où les ténèbres sont là, Dieu va susciter un moment de réveil, un moment où il va pouvoir à nouveau exercer sa grâce et sa miséricorde. Ézéchias vient dans un contexte. Moi, j'aurais pas aimé régner à sa place. Tout le peuple d'Israël était gangréné par l'idolâtrie. Tout le peuple d'Israël avait abandonné l'Éternel. Ils avaient même pillé la maison de Dieu. Là où Dieu avait désiré mettre son nom dedans. Ils avaient laissé la maison de Dieu littéralement pillée. Ils l'avaient même souillée. Quand Dieu veut amener un réveil, quand Dieu veut amener une restauration de l'Église, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre sa lumière afin qu'on évacue toutes les souillures de l'Église. Toutes les souillures de la maison de l'Éternel ont été sorties dehors. Et dans le temps de restauration de Dieu maintenant qui va arriver, l'Église verra en son sein toutes ces souillures sortir. Dehors les adultères. Dehors les fornicateurs. Dehors les voleurs, dehors les menteurs. Tu vas faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin à nouveau que le cœur de l'Église se tourne vers lui. Et dans ce sens, Ézéchias a été un instrument de Dieu, entre les mains de Dieu, pour ramener le cœur du peuple vers son Dieu. Voilà ce qui va se passer. L'Église et le cœur de l'Église va revenir vers son Dieu. Dites Amen. Parce que ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Regardez ce que Dieu va faire dans l'esprit. C'est ce qui est important. C'est plus que ce que vous voyez. Tu peux dire ce que tu veux sur l'Église du Seigneur. Tu peux même médire sur l'Église du Seigneur. Fais attention parce que Dieu est en train de faire une œuvre qui va te surprendre. Il est dit que Ézéchias, le premier mois de la première année de son règne, au lieu de chercher des alliances politiques avec les autres pays, etc., au lieu d'essayer d'avoir des influences qui lui soient favorables, la première chose qu'il fait, il pose, c'est un regard sur la maison de l'Éternel. Alléluia. Si tu poses ton regard sur l'Église avec amour, tu vas voir que Dieu va te bénir. Hein? Tu vas voir que... Mais maintenant, si tu poses tes regards sur l'Église avec un esprit de critique, parce que tu as mal vécu l'Église, fais attention. C'est un autre problème pour toi. Il va rétablir la maison de l'Éternel. Frères et sœurs, pour faire fonctionner l'Église, il faut que l'Église soit établie dans l'ordre divin. Que chacun soit à sa place dans le corps. Vous dites pas Amen ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas où ils se situent. Il y en a beaucoup qui ne savent pas où ils habitent dans l'église. Il y en a qui viennent dans l'église pour s'asseoir, pour écouter, puis repartent. Ils croient que c'est ça l'église. Ils se trompent. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de chrétien essuie-glace. Vous me comprenez? Vous savez ce que c'est qu'un essuie-glace? Bzz, je vais de droite et je vais de gauche. Dieu dit qu'il place chaque membre dans le corps là où il veut. Et tu te trompes si tu crois que tu peux te faire une foie à la carte. On n'est pas dans un restaurant. On n'est pas dans le flunch du Seigneur. On est dans la maison de Dieu. Et tout doit être dans l'ordre. Tout doit être à sa place. Tout doit être discipliné dans le Seigneur. On n'aime pas ce mot discipline. C'est parce qu'on ne l'aime pas qu'on fait n'importe quoi dans notre génération. Donc, Ézéchias a fait cette chose. Il a posé son regard, il a rétabli l'église, la maison de l'Éternel à l'intérieur. Il a remis l'autel là où il fallait, il a remis la cuve là où il fallait, il a remis toutes les choses à sa place. Il a ensuite rétabli ceux qui doivent servir dans la maison. C'est-à-dire, il a rappelé les Lévites. Les Lévites, ce sont des gens que Dieu a consacrés pour son service. Il les appelait à se sanctifier, à se purifier eux-mêmes. Et à reprendre le service de l'Éternel. Alléluia. Si tu veux servir Dieu, tu ne peux pas servir Dieu n'importe comment. Je suis ci, je suis ça. Tu sais quoi? Il faut que tu sois purifié, sanctifié par le Seigneur, que tu sois utile entre les mains de Dieu. Il faut que tu sois consacré au Seigneur. Il faut que tu aies l'onction de Dieu sur ta vie, sur ton service. Il est nécessaire que tu agisses selon les commandements et les préceptes de Dieu. Et je vous dis ce matin, ne vous y trompez pas, c'est que les commandements que Dieu a donnés dans l'Ancien Testament, ils sont aussi valables aujourd'hui pour nous. Ne vous y trompez pas. Il a établi à nouveau la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, tout est à sa place. Ensuite, ayant fait cela, nous avons vu dimanche dernier ce que Ézéchias avait dans son cœur. Il dit, j'ai à cœur de faire à nouveau alliance avec Dieu. Nous avons vu ce que cela comportait dimanche dernier, de faire à nouveau alliance avec Dieu. Le seul endroit où Dieu nous attend pour faire une nouvelle alliance avec lui, renouveler notre alliance, c'est à Golgotha, à la croix. Si tu fais une nouvelle alliance avec Dieu, c'est parce que tu considères que l'alliance que tu avais faite avec lui n'était pas suffisamment engageante pour toi et que tu t'étais un petit peu dispersé, loin de Dieu. Mais à nouveau, voilà, l'Esprit de Dieu te rappelle. L'Esprit de Dieu, à nouveau, met dans ton cœur ce saint désir de revenir à Dieu. L'Esprit de Dieu a fait son œuvre en toi. Alors, à nouveau, tu veux faire alliance avec Dieu. Et combien ici, il y a de personnes qui, à un moment donné, se sont séparées de Dieu, se sont éloignées de Dieu et qui sont revenues faire alliance avec Dieu. Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Mais faire alliance avec Dieu, ce n'est pas seulement en venir à Golgotha et à la croix. C'est aussi, n'est-ce pas, rentrer dans une profonde repentance. C'est le fondamental d'une nouvelle alliance avec Dieu. La circoncision du cœur. C'est quoi? Circoncire le cœur, c'est ôter de nos cœurs toutes les souillures du cœur. Circoncisez le prépuce de votre cœur, dit la parole de Dieu dans le Deutéronome. Ça veut dire ôter de votre cœur, dans tous les replis de votre cœur, toute souillure qui reste cachée. La circoncision, c'est pour quitter, vous savez, ce petit repli qui emmagasine toutes les impuretés de l'homme. Et la circoncision, c'est maintenant, aucune impureté viendra se mettre là. Il ne doit pas subsister dans nos cœurs aucune souillure de quelque sorte que ce soit. Circoncire le cœur, circoncire son cœur, c'est donner son cœur au Seigneur. Tu es maître de ma vie, tu viens sur le trône de mon cœur, j'accepte que tu poses le regard sur ma vie. Ézéchias va dire, j'ai à cœur de faire alliance avec Dieu. Pourquoi ? Afin que l'ardeur de la colère de Dieu se détourne du peuple de Dieu. Frères et sœurs, si vous savez que l'Église ne va pas, si vous savez que dans l'Église rien ne va, alors ayons à cœur de faire à nouveau alliance avec Dieu, afin que la colère de Dieu se détourne de nous. Parce que Dieu nous châtie, hein. Il châtie ceux qu'il aime. Ah non, avec Dieu tout va bien. Tout va bien. Dieu, non, il est amour. Oh. Dieu est amour. Oui, oui, bien sûr. On est d'accord avec ça. Mais on a oublié qu'il est le Dieu de la justice aussi. Il n'y a pas d'amour sans justice. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas d'amour sans justice ? Parce qu'il a fallu que la justice de Dieu soit exercée en Christ. Et ça a été la croix. Et c'est à la crucifixion pour que l'amour de Dieu soit révélé. Alléluia. Nous comprenons cela. Il est indissociable. Cet amour avec cette justice ne séparait pas les deux. Surtout pas. Nous avons à cœur, dit le roi. Frères et sœurs, le roi, c'est le symbole de celui qui a l'influence sur le peuple. Si un roi, il a à cœur de faire alliance avec Dieu, il va entraîner le peuple avec lui. Amen. Si les serviteurs de Dieu ont à cœur de faire alliance à nouveau avec Dieu, ils vont entraîner avec eux le peuple de Dieu. Oui ou non? Oui, il a eu à cœur, pour la bonne raison, qu'il savait que l'état de la maison de l'Éternel, l'état dans lequel était la maison de l'Éternel, allait amener le courroux de Dieu sur le peuple. Vous savez, la patience de Dieu, c'est notre salut. Oui, oui. Dieu patiente avec nous, hein. Et pourtant, nous méritons, hein. Mais c'est notre salut, dit l'apôtre. Et nous voyons donc que Akaz, qui a été donc ce père si mauvais, si méchant, il faut être fou, hein, pour d'abord jeter ses enfants en sacrifice à une idole. Attendez. Alors, il n'y a pas d'amour. Il a fait des enfants comment, quoi ? Je veux dire, pas d'amour dans son cœur pour mettre ses enfants dans une fournaise. Et puis on voit Ézéchias, il apparaît. Où il était Ézéchias ? Il a été gardé par Dieu. Pourquoi faire ? Parce que Dieu s'était choisi un instrument pour amener le peuple au réveil. C'est ce que Dieu a fait avec Ézéchias. Dieu l'a mis à part. Dieu l'a gardé de la folie meurtrière de son père. Et c'est par cet instrument-là qu'il va amener dans tout Israël la restauration et le réveil. Dieu se choisit des hommes dans cette génération pour amener l'Église à une restauration. C'est obligé avant l'enlèvement de l'Église. C'est une obligation. Dieu va le faire. Il nous est dit que ce roi veut faire alliance avec l'Éternel. Il va amener à faire sanctifier les sacrificateurs et les lévites pour les purifier. Et une fois qu'ils ont fait tout cela, il nous est dit que Ézéchias, après avoir vu ces choses mises en place, il se leva de bonne heure, on l'a vu le dimanche dernier, je vous le rappelle, il se leva de bonne heure et alla vers la maison de l'Éternel avec les responsables, avec les chefs de l'autorité de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Akaz ayant donné cet exemple d'idolâtrie, les maires de la ville de Montpellier ou n'importe quel responsable de la ville de Jérusalem avait autorisé qu'on fasse des autels aux idoles dans chaque rue de Jérusalem. Ils étaient aussi responsables que le peuple d'avoir introduit en Israël l'idolâtrie. Maintenant, mon frère, ma sœur, il n'est plus question qu'il y ait d'idolâtrie dans au coin de notre rue. On ne voit plus ça. Mais n'y a-t-il pas dans nos cœurs des petits endroits bien cachés en nous que nous idolâtrons? Par exemple, quand tu te regardes dans la glace, petit miroir, suis-je belle? Suis-je beau? Il faut que je sois encore plus beau, plus belle. Donc pour ça, je vais me mettre en action pour affiner ma silhouette, pour pomponner mes yeux, pour mettre de belles parures, pour paraître. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas là une forme d'idolâtrie? Qu'est-ce que je m'aime? Qu'est-ce que je suis beau? Qu'est-ce que je suis belle? Et je fais tout pour l'être. Y a-t-il pas dans le fond de nos cœurs, comme ça, des racines qui sont au fond de nous, qui nous détournent du Dieu vivant? Si les responsables, les autorités de la ville de Jérusalem sont montés de bonne heure. Je vous ai dit que de bonne heure, ce n'était pas à 10h du matin. Je vous ai dit que le mot en hébreu, boker, ça veut dire au point du jour. Ils se sont levés de bonne heure. Ils se sont bougés un peu pour aller adorer l'Éternel. Ils ne se sont pas levés à 10h pour aller faire 2 minutes de prière pour rassurer leur cœur. Ils ont pris du temps devant Dieu. Ils ont confessé leur idolâtrie. Ils ont demandé pardon à Dieu. Ils ont fait des sacrifices d'expiation pour leurs péchés. Alléluia. Mais est-ce que notre Dieu est un Dieu de loin ou un Dieu de près? Est-ce qu'il est en haut sur le trône avec sa grande barbe? Il est si loin de nous qu'il ne pense pas à nous. Non, 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 non. Jésus nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec toi. L'Esprit vit en toi. Dis, l'Esprit vit en moi. Ne dis pas qu'il est loin. Ne raconte pas de bobards. L'Esprit vit en toi. Et alors, n'est-ce pas, ces responsables de Jérusalem qui vont venir avec le roi, ils vont offrir des sacrifices. Et nous avons vu qu'ils les ont offerts en 4 directions différentes. D'abord, ils ont fait un sacrifice pour la tribu de Juda et de Benjamin, ces 2 tribus qui étaient restées près de Jérusalem. Les 10 autres s'étant séparés après le schisme de Salomon, Jéroboam et Roboam. Et les 10 tribus étaient montées vers le nord. Ils adoraient le veau d'or à Dan et à Bethel. Allez, à nouveau, c'est le veau d'or de Moïse et ça la vie dure, hein, les veaux d'or dans les cœurs. Hein. L'idolâtrie, elle est ancrée dans le cœur de l'homme. Eh bien, ce roi-là, qui était que simplement le roi de Juda, ben, il a une vision du peuple de Dieu. Ne dis pas que ton église elle est la meilleure, que ton église elle est la plus belle, que ton pasteur il est le plus beau, que ta pastorette elle est la plus belle. Ne dis jamais ça. Il faut que tu aies la vision du corps. Tu sais ce que c'est le corps? C'est tous les hystéliques que tu n'aimes pas. Et que Dieu aime. Voilà un roi intelligent. Il va faire des sacrifices avec les responsables de Jérusalem pour le royaume de Juda et de Benjamin. Ils vont faire un sacrifice pour le sanctuaire qui est à nouveau rétabli. Le sang va couler. Oh, sans effusion de sang. Point de pardon, le sang va couler. Alléluia, le sang va couler. C'est le symbole de la purification. Ensuite, ils vont faire un sacrifice spécialement pour Judas. Amen, amen. Spécialement pour cette tribu de Judas. Et enfin, regardez bien, ils vont faire des sacrifices pour tout Israël. Malgré qu'il soit le roi de Judas, malgré qu'il y ait eu un schisme entre eux et les 10 tribus, eh bien voilà un roi qui a la vision du corps. Quel est le pasteur qui a la vision du corps? Quelle est la brebis qui a la vision du corps? Quel est l'ancien qui a la vision du corps? Il a cette perspective dans son cœur de faire un sacrifice pour rassembler tout le peuple de Dieu. Frères et sœurs, n'est-ce pas une belle vision? Est-ce que vous priez pour l'unité du peuple de Dieu? Alors je vais vous dire, permettez-moi de vous dire quelque chose. Ne prie jamais pour que les catholiques qui soient avec les protestants et les évangéliques avec les... Ne prie pas ça pour ça, hein. Non, ça ne marchera pas. Tout ce qui est dans la forme humaine ne marchera pas. Jamais un catholique viendra. Oui, ils vont essayer de te faire rentrer dans leur giron pour te récupérer, mais ce n'est que de l'œcuménisme. Alors, comme le Seigneur, il n'est pas né d'hier ni d'avant-hier, il avait prévu ces choses-là, hein, en disant, ben, s'ils ont ce désir de se rassembler entre eux, malgré qu'ils ne soient pas d'accord, parce que, oh, quelle hypocrisie, on rassemble les églises pour faire des réunions, pour dire à Montpellier, nous sommes une seule et même église, mais sur la même estrade, il y a des pasteurs qui ne sont pas d'accord avec les dons spirituels, les autres qui ne sont pas d'accord avec ça, les autres qui ne sont pas d'accord avec ça, les autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Et on dit qu'on est unis. Quelle hypocrisie. Alors Dieu avait vu ces choses bien avant nous. Et il a fait un acte dans lequel nous n'avons rien à apporter pour être unis. Il nous a baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Allez, salut les hommes, salut les femmes qui veulent faire de l'œcuménisme. Nous allons aller vers Israël pour les évangéliser. Nous allons faire ci. Et puis nous allons faire ça. Et nous ferons ceci. Et nous ferons cela. Et bien tout ça, c'est échec et mat. Il n'y a rien qui marchera. Pourquoi? Parce que l'unité du peuple de Dieu, c'est tous les hommes et les femmes qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Point à la ligne. Ne prie pas pour ça. Ne prie pas pour dire, Seigneur, je te prie pour que les adventistes ils laissent tomber leur doctrine du Shabbat. Je te prie pour que les pentecôtistes ils laissent tomber leurs dons et qu'ils viennent se rassembler avec nous. Jamais ça ne marchera. Les hommes sont plus attachés à leur doctrine qu'au Seigneur. C'est la dramatique. Ils pensent avoir raison dans leur doctrine. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Jésus n'est pas une doctrine. Jésus est la révélation du Fils de Dieu. Il nous est dit qu'après avoir fait ces choses, donc avoir fait ces 4 sacrifices et en abondance, car Ézéchias, le roi de Juda, son cœur était tout entier pour le peuple d'Israël, malgré le schisme. Il nous est dit que toutes ces choses furent faites de la part de l'Éternel par ses prophètes. Car le commandement était de la part de l'Éternel par ses prophètes. C'est-à-dire que Ézéchias, Tout ce qu'il a fait, il l'a fait se basant sur la parole de Dieu. Si tu veux avoir une vie épanouie, fais toute chose que tu dois faire en conformité avec la parole du Seigneur. Et tu prospéreras dans toutes tes voies. Tu dis amen, Église ? Parce que ça, c'est la vérité. Alors, ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est que si vous regardez 2 Chroniques 29, 36, regardez bien ce qu'il est dit. Il est dit, et le service de la maison de l'Éternel fut rétabli, et Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait disposé le peuple. Comment ? Car la chose fut faite. Comment ? Comment il va arriver ce réveil ? Comment ? Soudainement. Donc ce n'est pas quelque chose que l'homme a préparé d'avance. C'est Dieu qui l'a fait. D'une manière inopinée. C'est dans un temps où l'homme ne contrôle rien. Il est dit là que c'était fait d'une manière surprenante, inattendu, imprévisible, inopiné. Ça veut dire que cette action de Dieu, elle est le reflet de la souveraineté de Dieu. Dieu a dit maintenant, et maintenant, ça se fait. Amen. Et quand Dieu dira, et maintenant, je veux que l'Église soit visitée et fasse à nouveau alliance avec moi, ça sera d'une manière subite. Mes frères, mon frère, ma sœur, pourquoi prêche-t-on de tels messages en ce dimanche? Pourquoi ce message vous est prêché? D'après vous, pourquoi? Que celui qui a des oreilles spirituelles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Si tu n'entends pas, dis au Seigneur qu'il te débouche tes oreilles. Parce que l'homme spirituel, il entend les choses spirituelles. Mais l'homme charnel, il a les oreilles bouchées. Il ne comprend même pas ce qui est dit. D'une manière inopinée. Ça m'a fait penser, et l'Esprit de Dieu m'a amené à considérer l'enlèvement de l'Église. Et je me suis dit, mais Dieu, il est surprenant. Il est dit, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, fais-moi un coup d'œil, sœur. Ça fait, ça y est, c'est fini. Et t'es plus là. Inopinément, un clin d'œil, terminé l'histoire, t'es enlevé, et en bas ça reste. D'une manière surprenante. Mais, écoutez bien ce matin ce que je vais vous dire. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a réservé à ceux qui l'aiment. Nous sommes prévenus par le Seigneur qu'il va faire la chose. Nous avons comme les prémices du frémissement de l'Esprit qui nous prépare à cette chose. Oui, d'une manière inopinée, parce que nous constatons ici la volonté souveraine de Dieu qui est au contrôle de toute chose. C'est pour ça, écoute-moi bien, Église, si tu veux contrôler ta vie, si tu veux contrôler ta vie, sache que Dieu, à un moment donné, il va se substituer à toi pour contrôler ta vie. Si vraiment tu aimes le Seigneur, mais si tu es dans un problème, laisse le Seigneur régler ton problème et laisse-le diriger ta vie. Contrôler ta vie, c'est diriger ta vie. C'est pas te mettre un joug dessus, c'est simplement te donner le conseil divin pour que tu avances. Pas question de contrôle, la puce, n'est-ce pas, GPS, téléphone portable, tout ça. Vous êtes contrôlé, nous sommes contrôlés, la carte bancaire, tu es contrôlé, ton iPhone là, que tu es baba devant, là, tu t'achètes, tu es contrôlé, tu es surcontrôlé, à un millimètre près, on sait où tu es. Excusez-moi, mais il y en a comme ça qui se sont fait prendre avec leur téléphone portable. Alors, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, quand l'ordre divin est rétabli dans l'Église, qu'à nouveau, l'Église, elle prêche la croix. Vous savez, la croix, on ne veut plus la prêcher dans nos églises. Ça dérange, hein. Il ne faut pas la prêcher. Il faut accepter que l'Église, elle vive comme l'Église. Concubinage, adultère, oui. Restez. Plus il y a de monde dans l'Église, plus il y a de dîmes dans l'Église. Allez, restez. Vous êtes gentils, vous êtes beaux. Vous pouvez rester là. Quand la croix est remise à sa place dans l'Église du Seigneur, quand à nouveau l'ordre divin est remis dans l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Voilà un peuple qui est retourné à l'Éternel, qui s'est à nouveau retourné vers l'Éternel. Qu'est-ce qui va sortir de ce peuple à ce moment-là, quand toutes les choses sont remises en place? Regardez comme c'est beau. 2 Chroniques 29, 25 à 31. Il plaça les Lévites dans la maison de l'Éternel. 2 Chroniques 29, versets 25 à 31. Il plaça les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon le commandement de David et de Gad, le voyant du roi, et de Nathan le prophète. Car le commandement était de la part de l'Éternel par ses prophètes. Et les Lévites se tinrent là avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Et Ézéchias dit d'offrir l'holocauste sur l'autel. La croix. L'holocauste sur l'autel, c'est la croix. Là où Jésus s'est offert. C'est l'autel des reins. C'est là où il y a le sacrifice pour le péché. C'est là où Jésus a été crucifié. Et au moment où commença l'Holocauste, oh, quand je dis à l'Église, mais Église, loue ton Dieu, dis au Seigneur, merci pour la croix, merci pour le sang versé, rends gloire au Seigneur, Église, au lieu d'avoir la bouche fermée, au lieu de parler pour des choses inutiles, rends gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Le cantique de l'Éternel commença, et les trompettes, avec l'accompagnement des instruments de David, roi d'Israël, toute la congrégation se prosterna, et le cantique se chanta, et les trompettes sonnèrent tout le temps, jusqu'à ce que l'Holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui se trouvaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Et le roi Ézéchias et les chefs dites aux Lévites, de louer l'Éternel avec les paroles de David et de Asaph, le voyant, ils louèrent avec joie, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit la parole et dit, vous êtes maintenant consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des sacrifices et des offrandes de louange dans la maison de l'Éternel. Et la congrégation amena des sacrifices et des offrandes de louange, et tous ceux qui avaient un esprit libéral, généreux, amenèrent des holocaustes. Frères et sœurs, quand la restauration de l'Église est en train de s'accomplir, quand les choses sont à nouveau à leur place, quand le peuple s'est humilié devant Dieu, il fait à nouveau alliance avec Dieu, quand le peuple est d'accord pour que la croix soit prêchée, quand le peuple rentre dans cette dimension de la louange et de l'adoration, alors il est facile d'être libéral dans son cœur et de donner à l'Éternel. Et c'est là où le passage de l'Écriture va nous enseigner quelque chose, là, maintenant. Vous allez voir. Tenez-vous sur vos sièges, hein. Tenez-vous sur vos sièges, parce que ce passage va vous incommoder. Un signe évident de réveil est le changement radical des cœurs à l'égard des offrandes et des dîmes. Vous voulez que je répète ? Un signe évident du réveil est le changement radical des cœurs à l'égard des offrandes et des dîmes, car se manifeste une disposition du cœur à l'égard de la libéralité et dans le fait qu'à ce moment-là, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pas terminé. C'est un principe spirituel de la plus haute importance, car quand la libéralité vient dans les cœurs, les liens de cupidité et d'égoïsme sont brisés dans les cœurs. Oh, je donne à l'église, mais juste ce que je dois donner, et encore pas plus, parce que pasteur, il ne me plaît pas. L'ancien non plus, d'ailleurs. Ah, peut-être les anciens non plus. Et puis, qu'est-ce qu'ils font de mon argent ? Qu'est-ce qu'ils font de mon argent ? Oh, qu'est-ce qu'on est rempli de l'esprit ! On est rempli de l'esprit. C'est pas fini. C'est pas fini. La cupidité dans les offrandes est une marque de la jouissance de la chair à l'égard des biens temporels. Je vais donner mon offrande à l'église, mais j'ai bien envie de m'acheter ce pull là-bas. Oh Seigneur, il est bon avec moi. Non, non. Je vais prendre 100 euros de mon offrande et je vais m'acheter mon pull. Tu le fais, c'est bien. Tu vas voir ce que le Seigneur va te dire après. La cupidité, frères et sœurs, dans les cœurs, vient d'un cœur qui manque encore de renouvellement. Le bonheur qu'on a à donner, plutôt qu'à recevoir, c'est une joie qui va déclencher l'adoration dans les lieux célestes. Vous savez que les offrandes, ça fait partie de la louange et de l'adoration. Non, non, mais il faut que vous soyez au courant quand même. Faut arrêter de croire que l'église elle demande de l'argent pour son business. Si tu donnes de l'argent dans l'église, dans tes offrandes et dans tes dîmes, c'est parce que tu le fais avec ton cœur, avec une adoration pour le Seigneur. Et qu'est-ce que c'est que l'offrande que tu donnes à l'église, si ce n'est ce que Dieu t'a donné? La cupidité dans les cœurs, c'est, dit Paul, une idolâtrie. J'idolâtre mon fric. Pas fini. Continue. Nous rappelons ici que l'apôtre Paul déclare dans les Éphésiens, chapitre 5, verset 5, que la cupidité est une idolâtrie. Le réveil apporte à nouveau la générosité dans les cœurs. Ils sont prêts à donner généreusement pour l'œuvre de Dieu. Voici ce que Paul déclarait dans 2 Corinthiens 9, 6 à 15. J'aimerais que vous sortiez ce texte et que vous le lisiez. Si vous avez vos Bibles, ça serait bien. Verset 6 à 15. C'est pas moi qui écris la parole de Dieu, hein. Et c'est pas moi qui écris la parole de Dieu. Celle en qui vous croyez, celle qui est inspirée de Dieu, c'est pas moi qui l'ai écrite, hein. C'est nos frères dans la foi. Voilà ce que dit l'Écriture. Or, je dis ceci, dit Paul. Paul, c'est quand même une référence. Vous aimez bien Paul ? Vous allez voir ce qu'il nous dit. Or, je dis ceci, celui qui sème chichement moissonnera aussi. C'est une loi spirituelle. Tu as beau tourner et retourner, tu sèmes ce que tu récoltes. Et tu vas récolter ce que tu as semé. Celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Et celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. Mon Dieu, mon roi. Si tu es capable de te dépouiller pour Dieu, de te donner de ton nécessaire à Dieu, qu'est-ce que Jésus a dit ? La vieille qui était dans le temple, qui a donné les petites pites, là, ce qui lui restait, qu'est-ce qu'a dit Jésus à son égard ? On en parlera dans toutes les générations. Oh, mais j'ai pas de quoi finir le mois. Tu crois que Dieu va te laisser tomber ? Est-ce que tu crois que le Seigneur va te laisser tomber ? Mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. Est-ce que c'est inspiré de Dieu ou pas ? Dites-moi, dites-le-moi. Pourquoi vous dites ces versets et vous n'y mettez pas la foi dedans ? Pourquoi vous voulez vous substituer à Dieu dans les choses que Dieu aimerait voir la foi être manifestée ? Et que vous bloquez la main de Dieu à votre égard. Je continue. Que chacun fasse selon qu'il se l'est proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Frères et sœurs, quand vous venez donner votre dîme, n'ayez pas l'air renfrogné comme ça. Comme si on vous arrachait du cœur une partie de vous-même. Vous savez le problème que Jésus a dit ? Il a dit, où vous servez Dieu, où vous servez maman. Ou Dieu, ou le fric, maman. Il dit que celui qui sème libéralement, avec une pleine libéralité dans son cœur, avec un amour pour l'œuvre de Dieu, sachant que ce que toi tu reçois du Seigneur, c'est parce que Dieu t'a permis d'être là où tu es et que tu gagnes l'argent que tu gagnes. Qu'est-ce que c'est que de redonner à Dieu le peu que Dieu te demande ? C'est encore lui qui te l'a donné. Mais qu'est-ce que tu fais de si extraordinaire ? Sachant que ce que tu donnes, c'est un sujet de bénédiction si tu le fais avec ton cœur. Si tu aimes l'Église, pourquoi l'Église, elle ne va pas de l'avant ? Pourquoi ? Parce que quand vous regardez à la fin du mois l'Église, eh ben on a eu juste pour payer le loyer et on ne peut plus faire autre chose. On n'a plus aucune possibilité, ni de mission, ni de vision, ni rien du tout, parce que c'est restreint de tous les côtés. Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous. Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous. Tu donnes 10 à Dieu, il te donne 1000. Tu ne veux pas investir dans cette banque ? Au lieu d'aller investir là-bas dans la bourse, donne 10 à Dieu, il t'en donne 1000. Punaise, quel rapport ! Il y a des banquiers. Non, il n'y a pas Philippe aujourd'hui au milieu de nous. Mais vous pourrez vous dire qu'il n'a jamais vu une banque comme ça. Tu donnes 10 euros, il te rend 1000. Immédiatement. Pourquoi ? Parce que Dieu se plaît à bénir. Parce que Dieu se plaît à encourager celui qui met sa foi, qui a une confiance en Dieu. Sachant que ce n'est pas les choses qu'il voit qui sont importantes, c'est les choses que tu ne vois pas et que Dieu va faire. Subitement, tu peux avoir un héritage dans ton compte. Tu le sais, ça ? Un cousin américain que tu ne connais même pas. Non, mais je ne plaisante pas. Quoi, vous n'avez pas des cousins américains? Ah ben, on en cherchera ailleurs, alors. Ça vous fait rire, quand même. Il est dit, mais Dieu est puissant. Babette, Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous. Afin qu'ayant toujours en toutes choses ce qui vous suffit. Ben Dieu. Je répète. Mais Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qui vous suffit, que vous abondiez en toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a répondu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure éternellement. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain à manger fournira et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice, étant de toute manière enrichi pour une entière libéralité qui produit par nous des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Parce que l'administration de cette charge non seulement comble les besoins des saints, et dis donc, l'Église, elle doit pourvoir aux besoins des saints. Quand il y a des saints en difficulté dans l'Église, l'Église, elle devrait être en capacité de pouvoir faire de assister ceux qui sont dans la difficulté. Est-ce que c'est suffisant dans les deniers de l'Église pour faire ces choses-là? Si nous sommes restreints dans nos offrandes et dans nos dîmes, comment pourrions-nous aider nos frères et nos sœurs? Alors, nous sommes obligés de prendre sur nos propres deniers pour les aider. Est-ce normal? Mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tout vos besoins. Parce que l'administration de cette charge non seulement comble les besoins des saints, mais aussi abonde par beaucoup d'actions de grâce rendues à Dieu. Puisque par l'expérience qu'ils font de ce service, ils glorifient Dieu pour la soumission dont vous faites profession à l'égard de l'évangile de Dieu. La soumission pas seulement à la parole de Dieu, mais à tout ce qui concerne la parole de Dieu, c'est-à-dire aux dîmes, aux offrandes, à la louange, à l'adoration. Nous allons voir que la libéralité, à un moment donné, nous allons le voir tout à l'heure, que cette libéralité est telle que quand ils vont rentrer dans la maison de l'Éternel, ça va abonder, ça va surabonder, même qu'il va falloir, qu'ils en ont de trop, ils vont leur donner aux frères et à tous ceux qui en manquent. De l'abondance, oui, parce que à moi l'or, à moi l'argent, dit l'Éternel. C'est à moi tout ça. Et Dieu est capable de nous faire surabonder en grâce si nous avons la générosité dans notre cœur. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu dans ma vie et dans mon service d'enfants de Dieu qui ont été droits dans leurs dîmes et leurs offrandes et qui n'ont pas été bénis de Dieu. Tous ont été bénis de Dieu. Puisque par l'expérience qu'ils font de ce service, ils glorifient Dieu pour la soumission dont vous faites profession à l'égard de l'évangile du Christ et pour la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Et par les supplications qu'ils font pour vous, étant animés d'une ardente affection envers vous à cause de la surabondance, grâce de Dieu qui repose sur vous, grâce à Dieu pour son nom inexprimable. Je crains fort que quand cette restauration de l'Église va venir, et si on trouve des cœurs qui sont dans un tel état de cupidité, qu'il y ait des Ananias et des Saphira à nouveau. Parce que des gens comme ça empêchent la progression de l'Évangile. Ils empêchent les dons de Dieu de s'exprimer au travers de son Église. Alors maintenant, voici le résultat de cette libéralité suite au réveil suscité par le peuple. Et vous allez trouver tout ça dans 2 Chroniques 29, 31 à 36. Ézéchias prit la parole et dit: vous vous êtes maintenant consacrés à l'Éternel, approchez-vous et amenez des sacrifices et des offrandes de louanges à la maison de l'Éternel. Et la congrégation amena des sacrifices et des offrandes de louanges, et tous ceux qui avaient un esprit libéral amenèrent des holocaustes. Et le nombre des holocaustes que la congrégation amena fut de 70 taureaux, 100 béliers, 200 agneaux, tout cela pour l'holocauste de l'Éternel. Et les choses consacrées furent 600 bœufs, 3000 moutons. Maintenant, il y en avait trop. Il y avait trop peu de sacrificateurs. Ils ne purent écorcher tous les holocaustes. Verset 35. Il y eut aussi des holocaustes en abondance, avec les graisses des sacrifices de prospérité, avec les libations pour les holocaustes. Et le service de la maison de l'Éternel fut rétabli. Et puis, à la fin, car la chose fut faite soudainement. De Chroniques 31, versets 11 à 12, Ézéchias donna l'ordre de réparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara, on y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Il y avait surabondance. La fidélité dans les offrandes est une marque d'adoration et de reconnaissance envers Dieu qui donne à tous libéralement. Que faisons-nous lorsque nous apportons nos offrandes et nos dîmes? Simplement, nous redonnons à Dieu ce qu'il nous a accordé par sa grâce. Et il y a un passage de l'Écriture où David, lui, il va exploser devant Dieu. Dans 1 Chronique 29, versets 10 à 22, il va dire ceci. Je prends le verset 14. Car tout vient de toi, et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Tout vient de toi, et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. Verset 16. Éternel, notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée afin de te bâtir une maison pour ton Saint-Nom est de ta main et tout est à toi. Et je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu prends plaisir à la droiture. Moi, dans la droiture de mon cœur, j'ai offert volontairement toutes ces choses. L'offrande et la dîme se fait dans la droiture du cœur et c'est un sujet de louange et d'adoration devant Dieu. Vous croyez que c'est simplement chanter que d'adorer Dieu, mais tu adores Dieu quand tu donnes tes dîmes et tes offrandes, tu adores Dieu quand tu pries pour un frère et une sœur, tu adores Dieu de façon multiple. Que Dieu ôte de nos cœurs tout esprit de cupidité. Et si nous mettons notre foi dans les promesses de Dieu, nous qui disons et qui sommes très spirituels, nous disons que nous sommes de l'esprit et que nous sommes enfantés par l'esprit, que nous sommes conduits par l'esprit, frères et sœurs, est-ce que tu crois à cette promesse de Dieu qui dit, mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous tes besoins? Est-ce que tu y crois dans la famine ou dans la richesse? Peu importe, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Tu te crois rassuré parce que tu as un manque quand t'en manques? Demain, par les jeux des Écritures, tu ne peux plus rien voir sur ton manque, ton compte en manque. Stéphane, il est capable de vous en parler. Ça va s'écrouler et puis ils t'en fric. Tu en fais quoi? Tu fais quoi de ton argent? alors que tu peux bénir. Tu crois que tu vas te substituer à Dieu en disant Dieu n'est pas capable de subvenir à mes besoins, donc moi je mets de côté, comme ça au moins je suis assuré que... Où elle est ta foi ? Un homme, une femme qui marche par la foi, c'est un homme qui s'attend chaque jour au miracle de Dieu. Tu demandes des miracles, mais il n'y en aura pas. Quel miracle tu veux que Dieu t'accorde si toi tu as pourvu à tous tes besoins? Il faut que Dieu t'amène au désert pour que tu vois le miracle de la manne. Il faut que tu viennes devant le rocher pour voir le miracle de l'eau. C'est le temps de réveil. C'est le temps où le cœur de l'Église se tournera vers son Dieu avec générosité. Elle pourra à nouveau donner. Elle aura plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que quand Dieu donne, il donne en surabondance. Éternel notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée afin de te bâtir une maison pour ton saint nom, tout cela est de ta main et tout est à toi. Et je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu prends plaisir à la droiture. Moi, dans la droiture de mon cœur, j'ai offert volontairement toutes ces choses. Verset 21, le lendemain de ce jour, ils sacrifièrent des sacrifices à l'Éternel et offrirent des holocaustes à l'Éternel, 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux, leurs libations, des sacrifices en abondance pour tout Israël. Il nous est dit qu'il y avait une grande joie dans le peuple. Hébreux 13:6 va nous dire ceci. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13:12. Maintenant, Paul, dans les Corinthiens, au chapitre 9, verset 5 de 2 Corinthiens, va nous dire ceci. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non pas un acte d'avarice. Comment Paul pouvait-il parler à l'Église comme ça? L'avarice, c'est la cupidité. Harpagon. C'est Molière qui a fait ça, non, Harpagon. Ça me rappelle d'avoir vu un film avec Louis de Funès, avec les sous. L'abondance des biens ont permis de subvenir aux besoins des frères et de distribuer avec fidélité la générosité des cœurs touchés par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il n'est pas dit en Romains 12, 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Toutes ces choses ont été faites pour une seule et bonne raison, c'est que l'alliance que le roi avait à cœur de faire, fallait qu'elle soit ratifiée par le sang. Or, la fête par excellence où le sang coule à Jérusalem, c'est la Pâque. Et c'est dans ce but que le roi Ézéchias, il va envoyer des émissaires dans les 10 tribus d'Israël au nord et dans son propre royaume pour amener tout Israël à venir à Jérusalem faire la Pâque, c'est-à-dire à nouveau faire alliance avec Dieu. La Pâque, c'est le moment important que Dieu a prévu dans le calendrier divin. C'est le point central du plan de salut de Dieu. C'est à la Pâque que l'agneau est égorgé. C'est à la Pâque que le sang coule. C'est à la Pâque que nos familles reçoivent le salut. C'est à la Pâque que le Seigneur nous purifie de tous nos péchés. C'est à la Pâque que nous recevons le pardon. C'est à la Pâque que nous nous convertissons. C'est à la Pâque, frères et sœurs, c'est la croix, c'est Golgotha. Et c'est là où le roi Ézéchias avait fait preuve d'intelligence parce qu'il était rempli de l'Esprit. Où il va faire alliance à nouveau avec Dieu le jour de la Pâque.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net